Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Mistral Digne que vous écoutez sur 99.3 FM. Bienvenue dans votre émission Catalyse, l'émission qui parle et qui fait parler de la scène locale musicale. Et ce soir, je reçois Davis Mira.
Exactement. Bien prononcé en plus.
Attends, je me suis entraîné.
Ah, c'est un métier. Hein.
C'est ça. Écoute, on va commencer tout de suite par la question que je pose à mes invités, à savoir, la musique, ça te vient d'où ?
Oula, ça vient de loin. Alors, si on reprend vraiment du début, je dirais que j'ai eu une révélation à 5 ans. Il y avait un micro qui traînait à la maison. Je sais pas bien pourquoi, mais enfin, c'était là en tout cas, à côté du tourne-disque. Et je commençais à faire mes petits shows à la maison. Là. Donc, dès qu'il y avait des invités, etc., je chantais Bioman et trucs de l'époque, quoi. Enfin, les trucs de cet âge-là, surtout. Et puis, voilà, j'avais ça dans la tête. Alors, je voulais être chanteur ou cascadeur. Voilà, c'était le. Donc cascadeur, après quelques accidents de vélo, etc., j'ai arrêté. Et puis finalement, la musique, c'est resté. Et donc après, moi, j'ai eu une enfance assez compliquée. Pour faire bref, on va dire que j'ai été plus ou moins abandonné par mes parents. Donc je me suis débrouillé un peu seul. Hein. J'ai été placé donc services sociaux, pupille de l'État. Et j'étais le petit gars de la campagne qui s'est retrouvé là avec des mecs des quartiers nord de Marseille et compagnie. Donc j'étais un peu. C'était un peu compliqué. Et donc la musique, ça a été un refuge en fait, quoi. Voilà, ça a été aussi un moyen d'expression rapidement. Hein. Moi, très rapidement, j'ai eu le besoin d'essayer d'écrire. Je pense que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Je vais avoir peut-être 13 ans ou quelque chose comme ça.
Et à cette époque-là, tu jouais de la musique ou tu...
Je chantais seulement.
Ok.
Voilà, je chantais seulement. Et après, dans la deuxième pension dans laquelle j'ai été, puisque j'étais dans deux pensions, dans la deuxième, j'avais la chance d'avoir un éducateur qui était musicien et un excellent musicien de blues. Donc je salue Fabien si jamais il était sur les ondes. Et puis on s'est mis à faire des ateliers tous les mercredis, des ateliers musique. Donc on était entouré de musiciens professionnels qui nous formaient. Et parallèlement, je commençais à faire un petit peu de solfège, bon, simplement histoire d'avoir les bases, quoi. Voilà, mais ça m'a pas trop passionné.
Okay, voilà. Je comprends tout à fait.
Voilà. Bon, je regrette pas d'avoir ces quelques bases. Ça peut toujours être utile, mais je m'en sers assez peu en réalité. J'ai une approche beaucoup plus artistique et instinctive, quoi, de la musique. Mmh. Voilà, donc après je dirais que la guitare c'est venu doucement, en autodidacte. Bon, je vais faire dans l'ordre. Disons que j'ai intégré mon premier groupe, je devais avoir 15 ans, je pense. Voilà, ça s'appelait Landscape, on était 7 musiciens. Et tous les samedis, en fait, on bossait de 14h à 2h du mat, quoi. On faisait des répètes pas possibles, du rock, du blues, la variété, un peu de tout, quoi. Donc c'était très formateur. On a commencé à faire un peu des petits concerts, etc. Et assez rapidement, donc, je me suis un petit peu mis à faire quelques petits accords sur la guitare, mais vraiment, juste comme ça, quoi.
C'est-à-dire, à ce moment-là, tu étais chanteur ?
Ouais, j'étais voilà, simplement chanteur, on faisait des reprises, hein, en fait. Hein. Voilà, et j'écrivais un peu des textes, comme je te dis, que je chantais avec d'autres musiciens qui posaient quelques accords dessus. Voilà, on s'amusait un peu comme ça. Voilà. Et puis, ben, la vie faisant, moi, j'ai pas pu faire, moi, je voulais faire ça, hein, c'était ma vie, je voulais en faire mon métier depuis toujours. Hein. Seulement, mon père m'a récupéré quand j'avais 15 ans. Ouais, 15 ans. Okay. Et malheureusement, le discours du père était, voilà, c'était à l'ancienne, quoi. Donc ça a été la musique, c'est pas un métier. Okay. Donc t'as une semaine pour trouver ce que tu veux faire et du boulot. Okay. Parce que pour moi, il est hors de question de continuer le circuit scolaire après le collège, quoi. J'en pouvais plus. Mm-hmm. Okay. Ben, je pense que quand on a vécu une enfance comme j'ai vécu moi, on a d'autres soucis en fait que l'école. En gros, c'est ça, quoi. Hein. Voilà, on va dire ça. Et puis, bon, j'étais un petit peu temps en temps de vous aller voir des psychologues de façon un peu obligatoire, hein, ça fait partie du système, et on s'est rapidement rendu compte que à 12 ans j'avais un QI de 140, je crois, déjà un truc comme ça. Donc l'école m'ennuyait, en fait j'étais un peu au fond de la classe, j'avais 14-15 de moyenne sans rien faire, on va dire. Voilà, en tout cas jusqu'en on va dire quatrième, quoi, voilà. Après, là, il fallait avoir appris quand même quelques trucs un peu par cœur. Comme je ne m'y étais pas mis, ça avait un peu baissé, quoi. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans le bâtiment. Voilà. Donc, je faisais 60 kilos pour 1m80 à l'époque. Donc, ça a été dur. Ça a été très dur. Je me suis un peu emplumé de pluie, heureusement. Mais ça a été, ouais. En plus, je suis tombé dans une entreprise vraiment à l'ancienne, quoi. Donc... Là, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de genouillère, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Hein. C'était vraiment dur, quoi. Mais bon, formateur, cependant. Et donc, voilà, ensuite, à 18 ans, je me suis mis à mon compte. J'ai créé mon entreprise. J'ai pris des employés, j'ai créé un magasin, j'ai créé une autre entreprise, j'ai acheté des appartements. Enfin bref, j'ai travaillé comme un fou. Je me suis tué à la tâche. Je suis tombé malade. Plus de l'usure, des opérations, enfin la totale. Je travaillais comme un fou, en fait. Et pour me rendre compte qu'on vivait dans un système où, de toute façon, on pouvait travailler autant qu'on voulait, on n'arriverait jamais à rien, à part nourrir tout un écosystème profiteur autour, hein, de comptables, de charges sociales, de tout ce qu'on veut, en fait. Voilà. Donc c'est impossible de s'en sortir, en gros, quoi. Je faisais plus de chiffres que... Parce que moi, j'étais la troisième génération, du coup, de peintre en bâtiment, enfin, dans le bâtiment, quoi. Et en faisant plus de chiffres que mes oncles 30 ans avant, je gagnais peut-être 3 fois moins, en fait, quoi. Voilà, ça c'est le concret de la réalité de la France aujourd'hui, et puis une bonne partie des pays développés du monde, en fait. Donc tout ça pour dire que pendant ce temps-là, la musique, c'était un peu compliqué. Donc je continuais parce que très passionné, mais ça restait très amateur, quelques accords comme ça sur la guitare, quelques textes de temps à autre, des petits concerts avec des petits groupes, donc j'en ai eu plusieurs. Voilà, on restait souvent dans le blues rock, swamp blues, voilà, des styles un peu comme ça.
Et à cette époque-là, tes textes, ils tournaient autour de quelle thématique ?
Je me rappelle, un de mes premiers textes s'appelait « Alcohol blues ». Voilà. Parce qu'en fait, quand j'allais chez ma mère de temps à autre, passer un week-end ou des choses comme ça, je faisais pas grand-chose, je traînais un peu au village, et puis j'allais au PMU, des choses comme ça, et puis j'observais, en fait. Et je voyais ces types qui m'intriguaient. Il y avait beaucoup de types, je me disais, mais c'est pas possible, des gars avec autant d'intelligence, en fait. Il y avait des gars, parfois, il y en a toujours un ou deux dans le bistrot, comme ça. En fait, le mec, on voit qu'il a vraiment des capacités, quoi. Et donc, ça m'intriguait de me dire, ce mec-là, qui est tous les jours au bistrot, complètement déchiré, quoi, hein, du matin au soir, avec cette intelligence-là, comment est-ce qu'il a pu en arriver là, en fait. Donc, voilà, j'étais parti sur ça, donc j'avais créé Alcohol Blues, voilà. Bon, ça valait ce que ça valait, mais pour l'époque, je pense que c'était pas trop mal. Ensuite, il y avait un texte sur le handicap, aussi. Celui qui marchait, je crois que ça s'appelait. Voilà. Voilà, je parle de choses, j'avais 15 ans, peut-être.
Et c'est ce que tu voyais autour de toi, dans ton environnement ?
Oui, c'est beaucoup, en fait, comme beaucoup de... Enfin, en tout cas, ce que moi j'appelle les vrais artistes, hein, parce qu'aujourd'hui, avec le mainstream, on entend des choses et on voit des choses, c'est tout sauf de l'art, quoi. Ouais, c'est du divertissement, quoi, voilà. Et encore, moi ça me divertit pas, mais bon, s'il y en a que ça divertit, c'est bien, mais... Non, moi je suis hypersensible, en fait, donc... les injustices, la souffrance, toutes ces choses-là, comment transformer les difficultés, la laideur en beauté, comment trouver du sens, donner du sens, partager. Et ce que la musique m'a apporté à moi, en fait, dans ces périodes difficiles, ça m'a vraiment sauvé, en fait, hein. Enfin, pour moi, hein, quand j'entendais certaines paroles, où j'avais l'impression qu'on me comprenait, en fait. Quand on est dans une situation où on se sent incompris, abandonné, ce qui était le cas, d'un seul coup, on se sent compris à travers des paroles qui sont particulièrement écrites, etc. Donc j'avais envie de, à mon tour, partager ça, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, en réalité.
C'est-à-dire, tu écoutais des chansons qui résonnaient en toi, en fait, par rapport à toi, à ton vécu, et ton envie, c'est de reproduire ça avec d'autres personnes, c'est ça ? De rentrer en lien, de partager...
Je ne suis pas du tout dans la reproduction, là, je ne cherche pas du tout à reproduire... Je pense d'ailleurs que ça s'entend dans mes créations. Je pense que c'est très personnel, très particulier. Pour ça que c'est toujours un peu difficile de décrire mon style, d'ailleurs. Surtout en France, parce que quand on dit folk en France, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, en fait. Alors, parfois, on pense que c'est du chant provençal ou breton, ce qui est vrai aussi, hein, parce qu'on dit aussi folk pour ça. Mais non, évidemment, on parle de la folk. Il y a eu la folk américaine avec Bob Dylan et Neil Young, et... Personnellement, je suis vraiment influencé par la folk anglo-saxonne, en fait, qui est encore moins connue, donc Nick Drake, Scott Matthews, etc. C'est-à-dire, c'est une folk très riche, très écrite, avec des morceaux parfois assez longs, avec beaucoup de passages, avec beaucoup d'arrangements, avec des textes très, très travaillés. C'est un peu moins brut que la folk américaine, quoi. Voilà. Que j'aime aussi, hein, par ailleurs, mais voilà, c'est un peu plus... sophistiqué, on va dire, voilà.
C'est ton influence principale ?
Principale, ouais. J'ai mis longtemps à la trouver, en fait. Hein. À la base, c'était plutôt le blues et la variété, quand j'étais ado. Bien que j'écoutais aussi du rock'n'roll, pas mal de choses, mais Elvis, etc. Mais j'étais vraiment touché par la variété bien écrite, comme Michel Berger, ce genre-là. Et le blues, quoi, voilà. Donc... la sœur Allison, B.B. King, des choses comme ça. Donc c'était marrant parce qu'en pension, tout le monde écoutait du rap, hein, évidemment. Mmh. C'était beaucoup des gars, les quartiers et tout. Et moi, j'écoutais B.B. King et Michel Berger, quoi. Donc c'était...
on était pas... C'est un autre univers.
Voilà, on n'était pas trop raccord sur les, sur les styles, quoi. Voilà, on en était où sur le fil ?
Bah, savoir après donc, ton adolescence, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé musicalement pour toi après avoir monté ton entreprise
Donc j'ai enchaîné un peu les groupes et puis j'ai eu une fatigue, voilà, parce que c'est souvent un peu les mêmes choses qui se passent. Alors c'est toujours les mêmes qui bossent et puis les autres ils bossent pas, donc on arrive en répète, on a passé des heures à travailler alors qu'on travaille dur la journée. Le soir, des fois, je travaille jusqu'à 1h du mat mes morceaux, puis on arrive et puis les autres ils ont rien bossé alors que c'est pas des gars débordés, quoi. Voilà, là, après on fait des concerts, du coup ça tombe pas. Moi je suis un peu. J'aime bien les choses bien faites, quoi. Donc ça me fatiguait assez vite. Puis c'est compliqué, hein. Dans la musique, il y a beaucoup d'ego. Ça a toujours été. Et c'est très délétère parce qu'en fait on devrait être au service de quelque chose. C'est-à-dire de quelque chose de plus grand que nous. Si on a cette humilité-là, je pense que. D'un seul coup, on monte de plusieurs marches. Hein. Voilà. Là, on peut commencer à créer quelque chose de... Et c'est infini. Quand on écoute Nick Cave, par exemple, on a l'impression d'être touché par une sorte de grâce. Il y a quelque chose de... Et ce gars-là, il a une inspiration qui est... Et je ne sens pas du tout chez lui, quand je l'entends parler, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il a prouvé avec sa démarche. Il a créé un site qui s'appelle... Right Hands, je crois, quelque chose comme ça. Ou en fait, on peut lui écrire directement, c'est lui qui répond. Hein. C'est pas, il n'a pas une équipe, quoi que ce soit. C'est lui qui prend le temps tous les jours, une heure ou deux de son temps tous les jours. Il devait le faire que pendant le Covid et en fait, il n'a jamais arrêté. Il répond très honnêtement aux gens, en fait, à toutes les questions qu'on peut lui poser sur tous les sujets que ce soit. Je pense que ça c'est très révélateur de l'âme et de la façon d'être, de ce que doit être, selon moi, un artiste. C'est pas quelque chose... Aujourd'hui, il y a beaucoup de paraître, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup. Enfin, l'art, c'est tout sauf ça, en fait. Voilà. Donc, dans la musique, c'est compliqué parce que, encore plus après, quand vous voulez, quand vous êtes auteur-compositeur comme moi et que vous voulez faire jouer vos morceaux aux autres, alors là, c'est encore pire.
Alors, avant de rentrer là-dedans, du coup, tu te retrouvais pas trop dans le jeu d'équipe, on va dire,
Au
sein d'un groupe.
Oui, c'était compliqué, quoi, parce que souvent, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je me retrouve tout le temps, finalement, même en étant très jeune. Hein, c'est-à-dire que j'avais 15 ans, j'intègre mon premier groupe, c'est moi qui trouve les dates, c'est moi qui achète le matos. Donc j'allais faire des chantiers à 15 ans en été pour pouvoir acheter du matos pour le groupe. Enfin bon, voilà. Mm-hmm. C'est moi qui arrive le plus tôt, c'est moi qui veux qu'on reste plus tard. C'est... Les autres, ils veulent rentrer tôt, ils arrivent en retard, ils n'ont pas travaillé les morceaux, ils n'achètent pas de matos, ils ne trouvent pas de date. Ils... Donc enfin, voilà, à la fin, on en est toujours au même truc. Moi, je suis quelqu'un, j'ai envie d'avancer, quoi. Alors aujourd'hui, évidemment, la vie et l'environnement m'a un peu calmé quand même. Sinon, on y laisse sa santé, quoi. Mais quand même, j'ai ça en moi, quoi. Je pense que c'est l'esprit créatif, en fait. On a envie de créer quelque chose, mais quelque chose de concret, quoi. Pas juste un petit truc qu'on écoute comme ça quelques secondes. Quelque chose qui apporte. Voilà. Donc, j'ai eu cette envie-là. Et du coup, là, j'ai dit, bon, il faut vraiment que je me mette à la guitare. Il faut vraiment que je m'accompagne tout seul et que je sois capable de m'accompagner tout simplement, mais surtout de créer, quoi, d'écrire, de composer. Mmh.
Sans dépendre des autres, en fait.
Sans dépendre des autres, ouais.
Mmh.
Ouais.
Ok. Voilà.
Donc c'est parti sur tout ça, en fait, la guitare. J'ai jamais eu vraiment l'envie de devenir un grand guitariste. De toute façon, les guitares héros, moi, c'est pas du tout mon truc. Pour moi, l'art, en général, c'est quelque chose qui ne doit pas être démonstratif. Voilà. Du tout. Cependant, il y a de grands virtuoses, c'est excellent ce qu'ils font, attention, hein, voilà, c'est pas du tout ce que je dis. On peut être un virtuose et ne pas faire du démonstratif, c'est très différent. Mais à l'inverse, on peut être un Bob Dylan et faire 4 accords et faire quelque chose de somptueux. Mmh. Ouais, Bob Dylan ou tant d'autres, hein, avec des petits arrangements posés dessus, un texte qui prend. D'ailleurs, moi, je suis souvent... plus touché par ça, quoi. C'est comme dans les émissions, parfois, quand ils vous prennent un morceau de texte d'une chanson, qui vous disent ouais, ces deux phrases-là sont pas terribles, hein. C'est complètement... c'est comme si vous preniez une image d'un livre pour dire bah, ce livre, il est pas terrible. Enfin, ça veut rien dire, quoi. Une œuvre, on la prend complète, ouais, on l'aime ou on l'aime pas, telle qu'elle est. Voilà. C'est d'ailleurs un problème, ça, qu'on a aujourd'hui, notamment par rapport aux moyens, aussi par rapport au sujet que j'ai abordé, mais par rapport aux moyens, c'est-à-dire vous faites un disque... où il y a tout un tas d'arrangements, j'en sais rien moi, 10 musiciens, 12 musiciens, et puis sur scène, vous allez le jouer seul. Et donc là, c'est tout un travail, parce qu'il faut complètement réarranger le morceau, etc. Donc finalement, c'est presque comme présenter les œuvres telles qu'elles étaient au départ, en fait. Mais j'aime beaucoup aussi cette approche, en fait, hein. C'est pas mal, mais c'est très différent. Voilà. C'est pas la même chose.
Donc là, l'objectif, c'était de t'accompagner sur tes...
M'accompagner et créer.
Compositions.
Ouais, et créer, et sans avoir ces complications, on peut rien construire. C'est-à-dire, à chaque fois, on se retrouve à travailler un an, deux ans, et puis, pof, ça tombe à l'eau. Et puis, on recommence avec un autre musicien, sans compter les changements de musicien au milieu, parce qu'il y en a un qui part, parce qu'il y en a un autre, c'est les autres qui le veulent plus, parce que l'autre, il est sorti avec la chanteuse. Enfin bon, c'est toujours des histoires pas possibles. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, quoi. Voilà, donc du coup, je me suis mis, bon, tranquillement cependant, hein, parce que j'étais encore artisan, etc. Mm-hmm. Et puis après, j'ai eu mes enfants aussi qui sont arrivés. J'ai deux enfants. Et... Bon, je ne saurais pas dire exactement la date, mais peut-être il y a 7 ans, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. 7 ans, je pense. Donc, je suis tombé malade, comme je te l'avais dit tout à l'heure. Donc, je passe les détails. Voilà, une maladie auto-immune assez, qui pourrit pas mal la vie, qui ne se voit pas trop comme ça. Donc, c'est encore pire parce que les gens ne peuvent pas trop comprendre, quoi. Mais qui crée beaucoup de douleurs, de fatigue, de manque de sommeil, de tout ce qu'on veut. On a l'impression d'avoir 80 ans, c'est un peu compliqué. Ajouté à des usures du bâtiment aussi, hein, voilà, avec des opérations du genou, etc. Donc c'était un peu compliqué. Finalement, je me suis retrouvé à la trentaine comme un vieux, quoi.
Okay.
Ouais, au bout de ma vie, quoi. Le matin pour se lever, catastrophe. Des problèmes aux yeux, des problèmes aux pieds, des problèmes aux genoux, des problèmes au dos, des problèmes au cervical, des problèmes de partout, quoi. C'était un peu compliqué. Et donc j'ai eu dans mon malheur, ça a créé le déclic. J'ai dit bon là il faut arrêter, tu vas mourir, arrête quoi.
Change.
Ouais, ouais. C'est très dur hein, en fait quand ça fait 15 ans qu'on a son compte et qu'on a une clientèle et que tout le monde nous connaît et que de se dire je vais arrêter pour faire de la musique quoi. C'est compliqué quoi, c'est compliqué. Et donc voilà, j'ai arrêté, je me suis mis à fond, j'ai créé le duo Sons of Acoustic, donc pour faire des reprises. en duo. Je me suis dit, voilà, deux, c'est un bon compromis. On peut arriver à choisir la bonne personne sans qu'il y ait trop de... Voilà, sans multiplier les problèmes. Parce que plus il y a de musiciens, plus on multiplie les problèmes. Malheureusement. Aussi, bien sûr, ça peut apporter plein de choses. Hein, mais souvent, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est souvent arrivé. Ça multiplie un peu les problèmes. Et donc, j'ai créé ce duo et ça a très bien marché, en fait. Voilà, on a fait des reprises pop folk, on va dire ça comme ça, aussi bien du Oasis, du Radiohead, mais en version acoustique un peu réarrangée, du Francis Cabrel, assez varié quoi. Puis ça a pris, puis du coup j'ai pu devenir intermittent quoi. Voilà, on commence à faire vraiment.
Donc là, du coup, vous tourniez dans quel secteur ?
Beaucoup le 04. Hein. Mais parfois, on allait un petit peu à l'extérieur. On a joué où ? On est parti jouer un petit peu aussi dans le Vaucluse. On a joué un peu dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, un peu les départements voisins. Quoi.
Limitrophes.
Mmh. Voilà. Donc après, je tournais à peu près à 80 dates par an. Quoi. Ça marchait bien.
Ah oui, ça marchait. Ouais,
ça marchait très bien. Mais c'est très, très, très épuisant. Quoi. Mmh. Voilà. Ce qui avait vraiment de bien, c'est que j'ai fini par tomber. Donc j'ai quand même eu des changements de musicien. Après, j'avais aussi fait une formule trio avec un batteur. Mais alors aujourd'hui, ça devient très complexe parce que les gens sont... L'ambiance a changé, je pense que tout le monde l'a remarqué. Et en fait, tout devient complexe, quoi. Il faudrait faire des concerts, mais jouer au volume d'une radio, vous voyez, alors qu'il n'y ait pas de dynamique. Donc dès que le batteur il met un coup de caisse claire, oula, faut baisser le son, enfin, ça devient très très complexe. Alors finalement ils veulent un batteur parce qu'ils veulent du dynamique, mais s'il y a le batteur c'est trop fort, enfin, ça c'est un peu compliqué quoi. Voilà, et finalement j'ai fini par tomber sur Peter Dale qui est un bassiste et pianiste, voilà, un anglais. C'est la première fois que je jouais avec un anglais pure souche, ça faisait que 3 ans qu'il était en France quoi. Alors là, c'était la révélation, quoi.
Voilà. Okay.
On s'est entendu, mais alors j'ai dit, ouais, c'est ça c'est exactement ce qu'il fallait, quoi. Le gars, il arrive, il a une oreille absolue, quoi. Il peut écrire ses partitions en solfège, il peut aussi faire à l'oreille. Il a des idées, il aime le style qu'on fait, il a du talent, il est sympa. Enfin, vraiment, ça s'est passé. On a joué, je crois, 3 ans et demi, quelque chose comme ça ensemble.
D'accord.
Et ça a été vraiment le musicien avec lequel je me suis le mieux entendu. Mmh. Et on avait un feeling. Alors, c'était un peu dur au début parce qu'il parlait pas très bien français et moi, je parle pas très bien anglais. Je parle encore moins bien anglais que lui français, hein, concrètement, mais. Mais au début, c'était un peu dur. Et puis finalement, c'est venu. Et on a eu fait quelques concerts qui étaient vraiment, pour des petites reprises dans des restos, des trucs comme ça, c'était vraiment somptueux. Et du coup, en 2018, j'avais sorti mon premier disque, It's Never Too Late. Alors, It's Never Too Late, mais c'est un disque en français. Hein. C'est simplement qu'il y a quelques phrases.
On
écoutera un peu. Mais il y a quelques phrases comme ça en anglais, mais ça reste un disque écrit en français.
Alors, le disque, il sort d'où ? Comment tu as fait pour l'enregistrer, pour le produire pour,
Donc, 2018. Alors, il y a des titres qui étaient écrits depuis longtemps, en fait. Voilà. Que j'avais dans la poche et que je savais que je voudrais en faire quelque chose un jour. Mais disons que jusque-là, j'avais toujours estimé que j'avais pas encore le niveau pour vraiment me lancer dans une production professionnelle, quoi. Faire vraiment un disque, ça me paraissait... Aujourd'hui, on a l'impression, quand tout le monde parle, faire un disque, ouais, c'est bon, on se met dans sa chambre. Hein. Moi, j'ai jamais eu cette vision-là, quoi. Pour moi, faire un disque, c'est un truc... C'est un truc qui va rester, c'est quelque chose qui doit être vraiment... une certaine perfection, c'est-à-dire la perfection n'existe pas, mais... D'ailleurs, une œuvre n'est jamais finie, elle est abandonnée, et c'est totalement vrai, je suis complètement d'accord avec cette phrase. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais quelqu'un de connu en tout cas. Et je suis complètement d'accord avec ça. Il y a un moment où il faut arriver à se raisonner et à dire « bon, stop, maintenant c'est bon, quoi voilà. ». Mais c'est dur, hein. Enfin, surtout pour moi, le deuxième disque, j'ai mis 6 ans. Là. Donc, 6 ans de travail à temps plein, hein, parce que les gens ils pensent que non, 6 ans à temps plein. Ben, j'expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc pour le premier disque, It's Never Too Late, il y avait à la fois des chansons, qui étaient écrites depuis un bon moment, et puis d'autres qui se sont construites au fur et à mesure du temps. Moi j'aime beaucoup la nuit. Du coup, quand je suis devenu musicien, ça a été un gros changement de vie, parce que petit à petit, je me suis décalé par la force des choses, hein, parce que les concerts, en fait...
Oui, c'est une soirée. Hein.
Ouais, les gens ne se rendent pas compte, mais souvent, on part à 15h, on va dire, et puis on rentre à 14h du mat', quoi. Hein. Donc, c'est un sacré boulot, quoi. Et après, il faut encore décharger le matos à la maison. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, petit à petit, je me suis décalé, et puis je me suis rendu compte que... Qu'est-ce que j'adore la nuit, quoi. Et qu'est-ce que c'est inspirant, en fait. Surtout quand on a ce contraste, c'est-à-dire on revient d'un concert, on est crevé, mais ça a été vraiment l'adrénaline, l'effervescence du monde. Il faut être à l'heure, hop, on joue tant de temps, on s'arrête, on a tant de temps pour manger, les gens en même temps veulent nous parler, etc., nous acheter un disque, et puis il faut reprendre, et puis après il faut plier le matos. Puis... Donc c'est ouf. Et là, d'un coup, c'est le silence absolu, on rentre à la maison. Et moi, j'adorais ces moments, quoi. Je fais un bon repas avec un bon film, etc. Et là, souvent, je sors sous les étoiles, et là, ça vient, quoi. Voilà. Donc là, okay. J'ai écrit pas mal de textes aussi et de chansons dans ce genre de contexte-là. Et puis mon esprit créatif aussi. Parfois, il y avait un truc que j'avais trouvé en jouant les reprises pendant le concert. Je me dis, attends, mais là, il faut que je le garde en tête. Et puis j'arrive à la maison, en fait, et malgré tout, je reprenais la guitare à 14h du mat. Et je trouvais des trucs, quoi. Et puis je les écrivais, je les mettais de côté. Puis petit à petit, il y a des morceaux comme ça qui s'emboîtent. On se dit, mais attends, cette mélodie, c'est exactement... Hein, il faut ça pour ce texte, quoi. Donc le disque, il s'est créé comme ça, en fait. Hein. Petit okay. à petit, j'ai eu peut-être une quinzaine de titres, ou 15, 18, et puis j'en ai sélectionné 12. Voilà, ce que j'estimais les plus aboutis.
Et comment ça fait pour les enregistrer, alors ?
Alors, pour les enregistrer, j'avais créé un home studio chez moi. Mm-hmm. Voilà. J'avais déjà pas mal de bouteilles, mine de rien, entre tous les concerts que j'avais fait, etc. Puis j'avais déjà fait des petites maquettes, parce que pour trouver les concerts, il faut faire des petites maquettes, oui. etc. Donc j'avais un peu mixé, j'avais un peu tout ça. Mais cependant, je me sentais pas encore non plus, même si je faisais tous les mixages des concerts et tout ça, c'est pas le même métier, mixage live et mixage studio, c'est vraiment deux métiers différents, en fait. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser parfois. J'ai pu le remarquer assez souvent, en fait. C'est pas du tout la même chose, quoi. Le live, il faut un résultat là, maintenant, tout de suite. Hop, il y a un Larsen, il faut savoir quelle fréquence la couper, etc. Donc on peut pas aller dans le détail comme on va faire en studio, et on n'est pas dans le but de créer une œuvre immortelle, quoi, quelque part. Voilà. Dans le studio, pour moi, c'est ça. C'est vraiment quelque chose où chaque note doit avoir un sens précis, chaque son doit s'entremêler avec l'autre. Donc c'est un peu plus... beaucoup plus complexe. Et puis ça doit pouvoir être entendu correctement sur tous les supports, et aujourd'hui ça devient complexe puisque beaucoup de gens écoutent sur des supports un peu pourris, des téléphones, et il faut quand même arriver à faire sonner sur ces supports-là. C'est très complexe. Donc bon, tout ça prend du temps et ça complexifie la chose.
Et là, donc du coup, sur ce premier album, tu étais seul à...
Du tout. Non, là, il y a eu beaucoup de monde qui est intervenu dessus, sur le premier. C'est pour ça que c'est très différent du second, en fait. Hein. C'est pas du tout la même approche. Donc j'avais fait les enregistrements moi dans mon studio avec mon batteur de l'époque, mon bassiste de l'époque. On avait fait intervenir aussi un violoncelliste, un violoniste altiste, quelques chœurs aussi. Voilà. Et après on était parti mixer au studio Movida à Manosque. Mm-hmm. Voilà. Tenu par Thomas Rebar. Et ensuite, j'avais fait le mastering à... Comment ça s'appelle, hein, chez Middleside Mastering à Ryan. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc non, c'était un projet quand même. Il y avait toute une équipe dessus. Voilà. Donc moi, j'avais fait vraiment les prises de son. Ensuite, le mixage, je l'ai fait faire, mais j'étais là tous les jours, du matin au soir. Donc en fait, on a fait le mixage à deux. Okay. Voilà. C'est-à-dire que lui, il m'a apporté quelques bagages techniques qui me manquaient, une oreille extérieure, du matériel, une pièce mieux traitée, de meilleures enceintes, etc. Et moi, j'apportais, voilà, j'étais vraiment là parce que je veux pas les sons d'aujourd'hui. Je veux pas quelque chose parce que c'est à la mode, parce qu'il faudrait ceci. Non, je veux ce qui va servir la chanson. Et dans ma tête, c'est très clair. Je veux que ce soit ça. J'ai déjà le son
de la grosse caisse. Tu sais ce que tu veux.
Ah oui, voilà. Je sais que la grosse caisse, ça doit être comme ça, que la guitare doit être comme ça, que les chœurs doivent être comme ça. J'ai déjà toute l'image dans ma tête, en fait, complète, quoi. Donc, après, ça plaît pas, c'est la mode, ça me rate pas, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, je pense que tous les artistes... qui finalement ont réussi à créer une œuvre conséquente. Ils n'ont jamais vu les choses comme ça, quoi. C'est très dommage d'ailleurs, hein. Moi je vois plein de jeunes artistes qui sont là à essayer de copier, essayer. En plus de ça, ils n'ont pas compris que de toute manière, quand on copie, on est déjà plus à la mode en fait. Si vraiment on voulait parler de mode, être à la mode, c'est pas suivre hein, ce qui se passe. Hein. Être à la mode, c'est créer quelque chose de nouveau à ce moment-là. Donc je ne sais pas non plus du tout de recréer quelque chose qui s'est passé avant. J'essaie de faire voilà, que ce soit du Davis Mira, quoi. Voilà, okay. J'ai mes idées, je sais ce que je veux. Donc j'ai un peu rendu fou l'ingénieur du son, quoi. On a pas, voilà. Au bout d'un moment, il a dit bon, va falloir qu'on arrête. Parce qu'au niveau du budget,
Il faut pas que ça dépasse non plus de pas, trop. Hein.
Ouais, puis c'est cher, là, c'est cher le studio. Hein, c'est, bien entendu. C'est pas donné. Donc ça a été un gros travail, quand même 3 ans de travail à peu près pour le premier album en tout, c'est-à-dire écriture, composition, arrangement. Prise de son, mixage, mastering, voilà. À peu près 3 ans pour le premier.
Ok.
Voilà.
Et ben on va écouter 3 des titres. Donc, Les Cœurs d'Hiver, que j'avais déjà diffusé à l'antenne, suivi de Dans le Néant, puis de Retraité, donc sur cet album.
3 titres du premier disque, donc.
Du premier, ouais, voilà.
Parfait.
Allez, c'est parti. À tout de suite.
Peut-être magnifique. yeux, quelques vieilles pierres, rappelant hier, sous un ciel de tonnerre, en réchauffant ma belle, sous un ciel de tonnerre, en réchauffant ma belle, sous un ciel de tonnerre.
Thank you.
longtemps après, me voilà retraité, comme on dit. J'ai passé ma vie à marcher ou crever aujourd'hui. À moi, liberté, le temps de respirer, oui, mais la vie est bien différente de ce que l'on dit. Retraité, moi mon corps est usé, mon cœur fatigué. Retraité, il y a bien longtemps que la vie m'a tué.
Retour sur Fréquence Mistral Digne que vous pouvez écouter sur 99.3 FM dans l'émission Catalyse. Vous venez d'écouter trois titres de Dewis Mira sur son premier album It's Never Too Late. Donc maintenant on va aborder quand même ce pourquoi tu es là.
Alors t'as bien prononcé mon prénom tout à l'heure et là tu le massacres.
Mais c'est pas possible, on fait ce qu'on peut.
Non, Dewis comme Miles Davis, tu vois. Mais ça s'écrit pas pareil. C'est D-E-W-I-S. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Donc, le second album, ce qui est ton actualité, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Eh bien, là, je sors de 6 années de création et production. Voilà, donc, je sais que de nos jours, ça peut paraître un peu fou. Voilà, à l'époque où il faut aller vite et où ça a l'air de prévaloir sur la qualité, souvent. Mais voilà, 6 ans à plein temps d'écriture, de composition, de remise en question, de création d'arrangement, d'enregistrement. On efface, on recommence, on tente une autre approche. Et puis 6 ans parce que j'ai tout fait par moi-même, contrairement au premier disque. Voilà, comme on avait dit, hein, j'ai eu pas mal de collaborateurs dessus. Là, j'ai vraiment voulu quelque chose de très très personnel, qui me ressemble. Une sorte de challenge aussi. Et puis j'avais vraiment envie de... J'adore le son, le travail du son. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup de mal à obtenir ce que je veux en passant par d'autres. Et donc je me suis vraiment, en même temps, j'ai continué à me former. Donc j'avais déjà quand même pas mal d'années derrière moi. Je m'y connaissais pas mal. Mais je voulais vraiment devenir... obtenir un niveau, en tout cas, qui, pour moi, je puisse me dire, voilà, c'est bon, je suis ingénieur du son, je peux faire ce que je veux. Pas faire comme je peux.
Oui,
voilà, je veux ça, et c'est très compliqué, surtout quand on a beaucoup d'arrangements, ce qui est finalement le cas quand même. Hein, il y a beaucoup de cordes, des batteries, des basses, il y a beaucoup de choses, des percussions, etc. Et tout ce monde doit coexister, en fait, sans se manger, au niveau des fréquences, etc. Voilà, il y a beaucoup de travail sur la spatialisation, sur les effets, etc. à faire pour que ça sonne, on ne dirait pas, mais c'est vraiment un gros travail. Donc je me suis formé, voilà, aujourd'hui c'est vrai que c'est miraculeux, quoi. J'ai pris des cours avec Endo Sheps, quoi. C'est un des plus grands ingénieurs du monde. C'est un truc de dingue. Avec des grands ingénieurs de mastering aussi, parce que derrière je voulais faire aussi le mastering moi-même. Donc 6 ans parce que voilà, parce que tout ça, parce que j'ai joué tous les instruments, tout est joué, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de conneries du genre. Pardon pour le gros mot, mais voilà, je le dis comme ça. Non, ça peut être, pourquoi pas, et encore qu'il faut penser à plus long terme, parce que c'est le gros problème de l'humain, ça. Pourquoi pas, faites faire des tâches administratives en vous aidant d'IA, c'est une chose, mais faire de la création avec de l'IA, bon, c'est... On est dans la déshumanisation totale. Il y a un moment où il faut, pourquoi pas faire l'amour avec des robots bientôt, quoi. Voilà. Et ça va arriver, il ne faut pas rêver. Hein. Donc, non, je pense qu'il y a certaines choses qui... Si on veut conserver notre humanité, alors après, on peut toujours en discuter, hein, mais personnellement, je préfère. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de machine, il n'y a pas... Donc, j'ai joué les batteries, j'ai joué du boran, c'est une percussion irlandaise, traditionnelle.
Ah oui, d'accord.
Voilà, qu'on entend sur tous les titres irlandais, voilà. Oui, pour donner un côté un peu tribal, un peu, je l'ai mixé, en plus, assez grave, assez... on a vraiment ce... Pour que ça sonne presque comme une percussion viking, quoi. Wow, tu vois, le... Pour vraiment donner quelque chose comme ça, d'un peu tribal, un peu... Donc, il y a certains morceaux où on le ressent vraiment bien. Il y a beaucoup d'arrangements de cordes, donc là je les ai joués au clavier, mais c'est joué, voilà. Et donc après on passe en fait par des samples, c'est-à-dire c'est des vrais sons qui ont été enregistrés, de vrais violoncellistes dans des églises, etc., mais que je passe par le clavier, donc je joue au clavier. Voilà, le chant, la basse, voilà, j'ai tout joué en fait moi-même, à part les chœurs féminins, où là j'ai fait appel à Aurore Gentoli, qui est une soprano, une chanteuse lyrique. Voilà, qui a travaillé notamment à l'Opéra de Nice et à l'Opéra de Limoges en tant que titulaire choriste. Et donc j'avais une idée très précise de ce que je voulais au niveau des chœurs. C'est-à-dire que je voulais qu'on s'approche du lyrique, mais je ne voulais pas du lyrique. Voilà, c'est-à-dire quelque chose d'éthéré, voilà, une espèce de reflux. Voilà, comme une voix après la mort qui résonnerait comme ça dans le fond de la cathédrale. Voilà. Un peu cette idée-là, mais pas le côté souvent surjoué qu'on peut trouver dans le, pardon pour les fans de lyrique, mais un peu, à mon sens, surjoué du lyrique un peu théâtral qui me plaît pas trop, quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus... Donc c'était un peu complexe, j'ai essayé de la driver, j'ai été aussi prof de chant, donc je peux faire ça en fait.
Mmh, okay.
Donc en gros, c'est basé surtout sur plus de souffle, parce qu'on est dans l'optimisation dans le lyrique, on va optimiser la machine. Donc on va économiser le souffle et on va essayer de sortir le plus de son possible. Voilà, et de garder au contraire le souffle. Et là je veux redonner de l'âme au contraire et je veux du souffle. Je veux beaucoup de souffle. Et beaucoup de subtilité aussi. Voilà, essayer de, au contraire de baisser le volume. Moi c'est pareil à ma voix, hein. Sur ce second disque, là, c'est beaucoup pas parler mais... On s'approche comme ça d'une voix assez grave et dictée, et alors que j'ai une grosse amplitude vocale, je peux monter très haut. D'ailleurs, sur le premier single qui est déjà sorti, on peut l'entendre à la fin du morceau, il y a deux chœurs très aigus, Et il y en a un des deux, c'est le mien en fait. Donc beaucoup, je pense, ne le reconnaîtront pas, mais parce que la voix est assez grave. Mais je préfère ces voix en fait chaudes et présentes.
Et
fait.
Là, sur ce second album, c'est quelle ambiance du coup que tu as voulu mettre en place?
Je pense que les gens reconnaîtront mon univers, mais enfin, on est quand même allé. Je suis vraiment allé creuser beaucoup plus profond. J'ai vraiment pas trouvé, parce que je pense que je l'avais déjà trouvé, mais je suis allé au cœur de ce qui me représente en tant qu'artiste, c'est-à-dire que on est dans quelque chose de très d'un peu sombre, de très écrit, voilà, avec de très beaux textes qui ont du sens, des arrangements vraiment léchés, des titres assez longs où on développe. Donc souvent les titres dans le disque vont de 5 à 8 minutes, voilà, à peu près. Okay. C'est assez long. Surtout pour aujourd'hui où on est dans les formats très courts, etc. Vraiment, voilà, développer donc de la folk mélancolique. Voilà, l'esprit, ce serait de la folk anglo-saxonne, très, très mélancolique, parfois sombre, sur des réalités de la condition humaine. Hein, voilà. Donc on aborde des sujets comme la vie, la mort, l'existentiel. Hein, on peut le dire comme ça. Il y a de la poésie aussi, du charnel. Le virus aussi, il y a un titre qui portera là-dessus. Je ne dis pas encore les titres des chansons, parce que pour l'instant, il n'y a que le single qui est sorti. Donc pour l'instant, c'est Vivre et mourir chaque jour qui est sorti le 7 février, donc il n'y a même pas une semaine. Et dont le clip va sortir la semaine prochaine, le 18, mardi. Ouais, mardi 18 février. Il y aura un superbe clip qui va sortir sur YouTube.
Qui l'a fait ce clip?
C'est moi. Quand je dis j'ai tout fait,
ah,
là,
tout fait vraiment, on est sur un album, un univers vraiment très personnel.
Très, très, très. Alors, je suis aidé un peu sur les clips quand même. Voilà. Mais une grosse partie, c'est moi. C'est-à-dire que je fais même une partie des vidéos où je me filme seul.
Mm-hmm. Okay.
Où je filme les environnements seul, etc. Et il y a une partie où j'ai fait appel à d'autres vidéastes aussi, à des danseuses, des choses comme ça pour faire des chorégraphies aussi. Mm-hmm. Aussi je voulais filmer certains pays, donc j'avais pas tout de suite les moyens d'aller je vais pas dire où, hein, parce que je veux garder dans ces pays là voilà. Donc j'ai eu la chance, c'est vrai qu'aujourd'hui avec le net on a cette chance là de pouvoir entrer en contact avec des vidéastes qui ont été ok pour partager certaines de leurs images, mais par contre c'est moi qui fais après tous les montages, qui fais tout l'étalonnage. Donc l'étalonnage, c'est la couleur, le contraste, la luminosité, plus net, plus flou, plus fondu, les enchaînements, enfin bon, c'est un gros travail en fait, hein, il faut caler aussi le timing avec. Donc encore là aussi, j'ai pris des cours, etc. J'en avais fait un petit peu, hein, mais pas vraiment faire des clips de ce niveau-là, quoi.
Donc là, sur le second album, il y aura davantage de clips?
Oui, en fait, donc là, le premier single est sorti, il va y en avoir un second qui sortira au mois de mars, un troisième qui sortira au mois d'avril. Mmh. Ensuite, on fera une pause pour l'été parce que c'est pas du tout l'ambiance. Mais mes chansons, voilà, c'est pas l'ambiance.
Ça sera la rentrée dans l'automne, quoi.
Et l'album sortira normalement au mois d'octobre.
Ok.
Voilà.
Alors, est-ce que tu peux diffuser déjà le nom de l'album?
Pas du tout. Ouais. Je suis désolé.
C'est une question.
Non, je veux vraiment garder les surprises jusqu'à la fin. Même pour les singles, je fais des premiers visuels pixelisés sur les réseaux, puis je dépixelise au fur et à mesure que les gens partagent, en parlent, etc. J'aime bien le côté... en plus, j'ai vraiment envie de ramener la société vers ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est tout de suite, on est capricieux, on est égoïste, j'ai horreur de tout ça. Moi, j'aime bien me languir, en fait. J'aurais rêvé, en fait, connaître une fille depuis tout petit, et puis la draguer pendant des années, et puis qu'elle m'attende que moi. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Donner de la valeur aux choses. Je veux que les gens attendent mes chansons, aient vraiment envie de s'y plonger, écoutent les textes. Réécoute encore et encore, découvre, ah mais ça j'avais pas entendu, waouh, ce trait de violoncelle là, il est comme ça parce que il y a un effet, ah oui, avec la basse il y a quelque chose qui se passe là, ça tire un peu, voilà, vraiment qu'ils se plongent dedans en fait et que ça leur apporte des émotions, quoi, qu'ils aient le frisson qui monte, qu'il y ait quelque chose, pas simplement hop on passe ça comme ça deux minutes en faisant le ménage ou dans la voiture. Et puis voilà, c'est pas pour moi, ça doit y avoir un sens artistique, quoi. Voilà. Donc j'aime bien faire un peu languir, etc. Ça me plaît.
Ok. Voilà. Eh ben écoute, alors on va pas vous faire languir davantage. On va se plonger tout entier dans Vivre et mourir chaque jour du nouvel album
à venir.
À venir, voilà, au mois d'octobre. Donc eh ben, peut-être qu'on se reverra d'ici à la fin de l'année, écoute, à cette occasion.
Avec grand plaisir. Voilà.
Allez, on vous laisse là-dessus. À très bientôt.
À bientôt, merci.
Arrivé dans ces bouts, quelle était la saison, quelle en était la raison, où est le fil, pourquoi je cours. Vivre et mourir chaque jour, puis une fois au moins, j'eusse été le meilleur à l'aube de ces lueurs, ébloui par la vie, ébloui par l'amour. Après les festins, les amours sans lendemain, ceux qui sont allés trop loin, au crépuscule, que seront nos amours? Vivre et mourir chaque jour, de labeur en souci, supporter ce qu'on en dit, vivre sans le meilleur, toujours rêver d'ailleurs, les rêves sont des sauveurs. À chaque heure. Il y eut les frissons, les lèvres tendres, ces langues déliées, langoureuses à serrer, dire qu'un frisson peut tuer. Mourir pour de vrai, si voulu refaire le monde en plus beau, en plus drôle, posé sur ton épaule, face à l'adversité, face à tout ce progrès. Vivre et mourir, est-ce vrai? Mais l'âme en appel de vie, immortel que tu es, immortel que nous sommes, l'art nous aura sauvés. Vivre et mourir à jamais.